Léandre Béret.
Une lave torrentielle a coulé ce matin vers 6h15 dans le Haut-Val de Bagne, loin de Blatten, de l'autre côté du canton du Valais. Le pont qui relie Champsec à Lourtier a été emporté. Le village est à nouveau isolé, comme l'été dernier. Pour l'instant, les habitants ne peuvent plus descendre dans la vallée. Les autorités se rencontrent en ce moment pour faire le point. Et retournons dans le Lutschental, à Blatten. La population tente là de retrouver un semblant de normalité après la catastrophe de mercredi qui ensevelit le village. Si la situation est aujourd'hui stable, la montagne continue de bouger. Les mouvements au Petit Nestorn se poursuivent, mais pour l'heure, tout ce qui descend s'arrête là où se trouvait le glacier avant sa chute. Et la vie reprend son cours. Déborah Solbank, les écoliers de Blatten retournent à l'école.
Tous les élèves du Lutschental sont réunis dans les écoles de deux villages de la vallée, à Kippel et à Villers. Les enfants de Blatten vont donc retrouver des murs qu'ils connaissent. Pas de bouleversement, au moins sur ce plan-là. Mais ces écoles ont été occupées par les différentes forces d'intervention durant ce week-end de l'ascension hors norme. Mathias Ebener, chef de l'information de l'état-major régional de conduite, interrogé samedi.
Nous nous efforçons maintenant de nettoyer ces locaux et de les rendre à nouveau utilisables pour l'école afin que les enseignants et les enfants puissent retrouver leur environnement habituel.
Pour les adultes de la vallée, il est important que les enfants retrouvent rapidement un rythme, une normalité.
Il est important que les pompiers et les policiers ne soient pas assis dans la pièce voisine. Nous nous efforçons de faire en sorte que les enfants retrouvent une place normale dans leur école.
Le retour d'une certaine normalité dans la vie de tous les jours, les psychologues d'urgence le disent, est un élément essentiel pour réussir petit à petit à retrouver un sentiment de sécurité.
Le nationaliste Karol Nawrocki remporte la présidentielle polonaise avec 51% des voix. Cet historien de 42 ans bat le candidat pro-européen, le maire de Varsovie, Rafał Trzaskowski, au deuxième tour. Avec son slogan « La Pologne d'abord, les Polonais d'abord », il a obtenu le soutien du principal parti d'opposition, Droit et Justice, et de l'administration américaine de Donald Trump. Karol Nawrocki s'oppose à l'adhésion à l'OTAN de ce pays voisin et dénonce les aides accordées aux réfugiés ukrainiens en Pologne. Une élection présidentielle pour tourner la page, cette fois en Corée du Sud. Les candidats poursuivent aujourd'hui leurs efforts pour convaincre les électeurs à la veille d'un scrutin déclenché par la destitution du président Yoon Suk-yeol. Sa tentative désastreuse d'imposer la loi martiale a causé 6 mois de chaos politique, marqué par des manifestations massives, des rebondissements judiciaires et une succession inédite de présidents intérimaires. Kiev et Moscou reprennent aujourd'hui à Istanbul des débuts de discussions sur de possibles négociations de paix. Des délégations russes et ukrainiennes se réunissent après avoir engagé de premières discussions directes le 16 mai dans la ville turque sans avancée. Cette nouvelle rencontre intervient au lendemain d'une vaste attaque coordonnée de drones menée par l'Ukraine contre des aérodromes militaires en Russie jusqu'en Sibérie. Moscou a confirmé que plusieurs appareils aériens étaient en feu. Ce matin encore, la Russie annonce avoir abattu plus de 160 drones ukrainiens. En Suisse, le taux hypothécaire de référence ne bougera pas. L'Office fédéral du logement a fixé ce matin ce taux déterminant pour les calculs des loyers qui reste à 1,5%. Et ce, malgré les baisses successives du taux directeur de la Banque nationale suisse parce que le référent ne se répercute pas immédiatement. Nadia Garbi, économiste à la banque privée Pictet Wealth Management.
On sait que ce taux de référence ne bouge pas forcément lorsque la Banque nationale suisse adapte son taux directeur. Cela prend généralement un certain temps pour les banques de répercuter la baisse du taux directeur sur les taux hypothécaires.
Pas de baisse aujourd'hui donc, mais probablement en septembre?
Oui, selon toute vraisemblance, on s'attend à une baisse de ce taux de référence en septembre. Étant donné qu'on voit la Banque nationale suisse baisser ses taux et être en territoire négatif dans ces prochains mois. Pourquoi? Parce qu'on sait que les perspectives d'inflation en Suisse sont très faibles et on a aussi cette force du franc qui devrait, selon toute vraisemblance, pousser la BNS à continuer son cycle d'assouplissement, ce qui aura un impact sur ce taux d'intérêt hypothécaire de référence.
Nadia Garbi avec Jean-Philippe Routz. Un problème technique latent touche Skyguide à l'aéroport de Genève. La société de surveillance de l'espace aérien suisse réduit donc dès aujourd'hui de 20% le nombre d'avions qui pourront atterrir à Genève-Cointrin. C'est l'image radar qui disparaît des écrans de contrôle pendant quelques secondes. Pas de danger toutefois pour le trafic aérien sur Skyguide. Au cours des derniers mois, elle a déjà connu 7 dysfonctionnements de ce système. En tennis, tous les qualifiés pour les quarts de finale de Roland-Garros seront connus ce soir. Hier, quelques grosses batailles ont eu lieu sur les courts parisiens. La quadruple vainqueur du tournoi, Iga Świątek, n'est ainsi pas passée très loin de l'élimination à Paris. Bernardin Lehmann.
Dans le vestiaire, avant d'entrer sur le court, Iga Świątek a eu le temps d'observer celle qui sera sa future adversaire. Ce sera Elina Svitolina qui a sauvé 3 balles de match face à la finaliste de l'an dernier, Yasmin Paolini. Mais comme l'italienne, Iga Świątek a bien failli ne pas être au rendez-vous des quarts de finale. Promenée comme jamais en première manche par la Kazakh Elena Rybakina, la Polonaise a eu besoin de patience pour retourner la situation. À Paris, Iga Świątek, dans un stade où elle a forgé son histoire, cherche à nouveau la lumière. Elle a dû laisser sa rivale Arina Sabalenka devenir la patronne du circuit, mais à Paris, la Polonaise entend régner. Il ne reste aux deux femmes qu'un match à gagner avant de se retrouver. Ce ne sera pas la finale, mais ce serait en demi-finale. Vu la densité actuelle du circuit féminin et la qualité de leurs adversaires, Elina Svitolina et Jin Wenzheng, on ne pariera pas encore sur la tenue jeudi de cette affiche. Bernard Dalleman, RTS Sport, Paris.
Roland Garros à suivre en images sur RTS2 et sur RTS Sport. Des nuages et des précipitations fréquentes aujourd'hui avec des orages parfois, quelques brèves éclaircies sont possibles en plaine. Tout cela va se calmer partout ce soir et dans la nuit. Comptez maximum 20 degrés en plaine.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
C'est l'un des opéras les plus joués au monde. L'histoire tragique d'un amour impossible entre une courtisane et un jeune bourgeois. Du 14 au 27 juin, la Traviata de Giuseppe Verdi se joue au Grand Théâtre de Genève. Découvrez cette partition iconique, mise en scène par Karin Henkel, le samedi 28 juin sur RTS Espace 2 et sur l'application Play RTS.
La Petite Compagnie, Juliette Granier.
Bonjour à vous, on va commencer avec la musique de Aubert. Il était né en 1782 et puis alors j'ai un article sous les yeux d'un certain Émile Vuillermoz. Que l'on écrit Vuillermoz comme la Salaz, comme Pantalaz ou Gétaz, ou le magicien d'eau, ou histoire d'eau, à ne pas confondre avec les jeux d'eau de Ravel. Bref, c'est un certain Vuillermoz qui écrit une belle histoire de la musique et qui nous dit que le cas de ce compositeur, Daniel François Esprit Aubert, le plus parisien des Normands, est plus démonstratif que à Lévis en ce qui concerne la facilité avec laquelle on pouvait à l'époque s'assimiler des recettes d'écriture brevetées et s'imposer au public sans avoir besoin de lutter pour son idéal et souffrir pour sa foi. Alors je pense que assimiler des recettes d'écriture brevetées et s'imposer au public sans avoir besoin de lutter pour son idéal et souffrir sa foi, ça n'est pas qu'à l'époque de Daniel François Esprit Aubert. Alors il dit que les compositeurs à l'époque, qui ne troublaient aucun instinct révolutionnaire, aucune ambition novatrice et qui apportaient tout leur zèle à parler honnêtement le langage de leur temps et respectaient un conformisme de bonne compagnie, étaient récompensés ainsi, alors ben lui il a eu le titre de directeur du conservatoire, maître de chapelle de la cour impériale de Napoléon III. Voilà, donc c'est pas parce qu'on a des super postes aussi qu'on est forcément génial. Aubert, dit-il, donc Vuillermoz, avec son métier très sûr, sa plume facile, son invention mélodique claire et sans audace, oh c'est cruel, et son sens avisé du théâtre bourgeois, remplissait si parfaitement ses conditions que ses consécrations officielles lui revenaient de droit. Eh bien, savez-vous qu'une des meilleures chanteuses de notre temps, Joan Sutherland, a trouvé néanmoins assez bon la musique de Daniel François Esprit Aubert, Manon Lescaut. On va écouter, c'est l'histoire amoureuse. Elle est accompagnée, John Sutherland, de l'Orchestre de la Suisse Romande et de Richard Boninger en 69 au Victoria Hall. Il en voulait plaisir, de lui ne voulait. Voilà ce rôle de Manon Lescaut qui est un rôle de coloratura soprano. Ici, on écoutait John Sutherland, un Manon Lescaut de Auber. À ne pas confondre avec Manon Lescaut de Puccini ou Manon tout court de Massenet, qui était donc tiré de ce roman de 1731 de l'abbé Prévost qui s'appelait Manon Lescaut.
Thank you.
C'était un passage du quatuor à cordes de Dvorak le 13, Molto Vivace, avec le quatuor de Prague. Si vous avez envie de partager les morceaux, au 076 399 13 73. Des morceaux, mais aussi des avis, parfois. D'ailleurs, vous êtes... Votre message peut être lu éventuellement, si je vois que ça n'est pas trop privé, si vous avez envie de partager quelque chose de général. Mais je vois que j'ai plein de messages qui sont arrivés. Oh là là, il faut que je les lise. Alors pour accompagner la lecture, eh bien ça va être les soupirs. Non, je ne vais pas soupirer parce que j'en ai marre de recevoir des messages ou parce que je ne trouve qu'ils ne sont pas assez bien. Soupir, c'est le titre du morceau et c'était imprévu que ça tombe avec le moment de lecture des messages. Edward Edgar et le compositeur, Nicola Benedetti au violon, Piotr Limonov au piano, jouent. C'était Les Soupirs pour violon et piano, Edward Elgar, composition, Nicolas Benedetti, Pietre Limonov, interprétation. Alors imaginez-vous que vous avez une partition qui comporte ceci. Verdi, Falstaff, acte 3, second part, noir 63, c'est le tempo, c'est à peu près à la seconde. Andante assai sostenuto, il faut marcher, il faut aller vers l'avant, mais à peine un peu soutenu. Démerdez-vous avec ça. The calls of forest wardens far away, the bark brightens, etc. Alors qu'est-ce qu'on entend ? Au loin, l'appel de la forêt. Le parc reluit petit à petit par l'éclat de la lune. Là, on a un corps. Corno interno molto lontano. Alors, c'est corps intérieur, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais assez lointain. Mimi, do, mimi, do, la, la, si, do, si, mimi, si, si. Morendo, alors là, il faut faire mourir le son. Et peu à peu, la lune s'élève. Mi, do, 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 mi, 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 do, la, la, si, do, si, mi, mi, la, la. Et après, on a des petites choses pianissimo, toutes douces, qui descendent des aigus, un peu comme des reflets lunaires. On imagine qu'il va y avoir des petits pizzicati, des violons tout délicats, de la harpe, peut-être de la flûte. Et enfin, la voix de Rolando Villason, qui chantera « Dal labbro il canto estasiato vola ».
Dal labbro il canto estasiato ora, e in silenzi notturni e va lontano, e al fin ritrova un altro labbro umano che gli risponde al suon, ma la sua cura tende sempre ad unire chi lo disuona. Così la gioia disiata bocca. Baciata non perde vent'ora,
non si rinnova come vola l'ora.
flot d'amour qui se répand dans les bois sous la lune. On est dans la belle musique italienne de Giuseppe Verdi. Vous savez quoi, ça m'a fait penser un petit peu au chant vraiment traditionnel napolitain. Au début, je me suis dit, mais c'est drôle, je sais qu'on est dans un opéra, mais j'ai l'impression d'entendre un air populaire de ceux que l'on chante à pleine voix dans les rues ou à mi-voix dans les soirées. C'était ici Falstaff, l'air d'Allabro, il canto estasiato vola, avec Rolando Villason, Moika Erdmann, la voix féminine, Gian Andrea Nozeda qui dirigeait l'orchestre de Turin du Teatro Regio. Avant d'écouter la sonate en si mineur de Chopin dans son Allegro maestoso, Daniil Trifonov au piano, je voulais vous dire que tout à l'heure nous écouterons un entretien avec Romain Gary. Bien sûr, ce sont des archives, mais vous savez que désormais nous avons le temps d'écouter un peu ce que les écrivains ont à nous dire d'intéressant, le suc un petit peu de leur sagesse. Thank you. quelle belle écriture. C'est fou de se dire qu'avec des notes, eh bien, on peut proposer des choses qui sont complètement vides ou des choses qui sont complètement pleines, avec le même système. Nous écoutions ici Daniil Trifonov dans la troisième sonate pour piano en si mineur, Frédéric Chopin, compositeur, et c'était le premier mouvement Allegro Maestoso.
Your looks are laughable.
Joshua Bell au violon et la voix de Christine Chenoweth pour My Funny Valentine.
La petite compagnie, les écrivains nous parlent.
Il y a des personnages que vous n'avez pas été, Romain Gary, et que vous auriez voulu être.
Oui, alors les personnages que je n'ai pas été et que j'aurais voulu être, j'espère avoir encore, s'il me reste vie, la chance de le devenir, parce que pour moi, justement, comme romancier, le roman, pour moi, représente une tentative d'évasion hors de moi-même. Je n'ayant pas assez de vie et n'ayant pas assez de jeu, J-E, en raison de notre extrême petitesse, je me réfugie dans le roman et dans les personnages qui sont les plus différents de moi possible pour essayer d'aborder la vie par des aspects qui me sont inconnus. Je vis donc, à travers le roman, une aventure continuelle, devenant tel ou tel personnage, devenant Morel dans Les Racines du Ciel, devenant un noir dans Chien Blanc, des enfants dans la résistance polonaise dans l'éducation européenne, ou la vieille dame de la haute noblesse anglaise, Lady L, dans le roman qui porte ce nom. Quand je m'identifie ainsi en tant que comédien, en tant que histrion, en tant qu'auteur et acteur avec ce personnage, je le deviens, et il est bien entendu d'une notoriété publique, il est connu que lorsqu'un acteur vit en scène son personnage intensément, il le devient dans une grande mesure, il le ressent très profondément, du moins les plus grands. Donc en ce sens, pour moi, les romans sont des surplus de vie que j'annexe, une tentative au fond impérialiste, colonisatrice de la vie à travers le roman.
Donc la création artistique naît de ce que l'homme n'est pas.
Pour moi, l'art est d'abord ce que je l'ai défini dans un livre qui s'appelle Pour Sganarelle, une préface à un roman, c'est un essai sur le roman, Pour Sganarelle, j'ai dit que l'art est ce qui n'est pas. Et pour moi, le roman, mon roman, est tout ce que je ne suis pas. Donc, lorsqu'on me cherche dans mes romans, évidemment, de nouveau, on tombe sur des personnalités multiples, et je crois que les critiques en France ont beaucoup de difficultés à me classer, à me coller une étiquette sur le dos et à étudier mon œuvre littéraire en fonction d'une unité quelconque. Précisément parce que j'ai vu des vies multiples, les plus différentes des miennes possibles, je suis capable de devenir aussi bien une vieille dame qu'un aventurier, qu'un conquérant, qu'un enfant et même qu'un chien auquel je m'identifie parfois avec une très grande facilité.
Et l'art est, selon vous, Romain Gary, ennemi naturel de tout ordre des choses ?
L'art ?
Oui.
Ah, je ne le crois pas du tout. Voyez-vous, là, non seulement je ne le crois pas, mais j'ai fait l'autre jour une expérience, c'est pas difficile, c'est hier, j'ai fait une expérience très curieuse quand vous posez la question, l'art est-il ennemi de tout ordre des choses ?
Oui, l'art pourrait être scandale, en d'autres termes.
Eh bien, voilà, je vais vous dire quelque chose d'assez amusant. Et chaque fois que je viens très souvent en Suisse, et je vis beaucoup en Suisse, et chaque fois que je viens de France en Suisse, je trouve un certain soulagement, un certain confort artistique à me trouver dans un quadrillage bien fait, avec des formes d'ordre et de règles établies et bien en place, comme dans un tableau de Mondrian. J'éprouve, lorsque je m'engage sur le circuit régulier des permissions, des autorisations, de ce qui est toléré, de ce qui est défendu en Suisse, un soulagement artistique de me trouver dans une toile bien encadrée, bien peinte, très soigneusement peinte, et qui me rappelle justement par ses quadrillages, ses cadrages et ses passages cloutés, l'étoile abstraite, l'étoile de Mondrian, où tout n'est qu'ordre et beauté. Je ne dirais pas que tout n'est qu'ordre et beauté en Suisse, bien sûr, mais l'ordre suisse m'apporte un certain soulagement artistique, ce qui est très curieux et ce que je n'avais jamais remarqué auparavant. Donc vous voyez qu'il n'y a pas contradiction entre art et ordre. Et je dirais quand même que dans le désordre, l'art est avant tout une recherche d'ordre. C'est une volonté d'organiser le monde, de le posséder selon des critères qu'on lui impose, de l'encadrer, et que c'est à la base même de la création, cette volonté d'organiser les forces obscures qui nous entourent, selon ses propres canevas, selon son besoin passionné de justice et de miséricorde.
Et vous êtes un homme d'ordre, Romain Gary ?
Non, je suis un homme de désordre absolu dans la vie, dans ma façon de vivre, et pourquoi j'ai une adoration pour l'ordre. Et comme je suis un passionné de l'ordre, comme tous les désordonnés, et la création artistique me procure un soulagement bien connu des psychanalystes, sûrement, puisque dans mon psychisme aussi, tout est désordre, ne serait-ce qu'à cause de mes origines et des vies diverses que j'ai vécues. La création artistique, elle, me permet de donner à mon psychisme un ordre, une structure, d'y régner en maître absolu dans la plus parfaite harmonie. L'art, pour moi, est une recherche d'harmonie aussi bien littéraire qu'intérieure.
Vous n'avez jamais eu peur du scandale, par exemple ?
Ben, il paraît que je cause pas mal de scandales, surtout par mon langage, mais vous savez, en Suisse, encore une fois, je fais très attention, je ne vais choquer personne.
Pourquoi faites-vous très attention en Suisse ?
Eh bien, parce que je vous dis, dès que j'entre en Suisse, dès que je traverse la frontière, il ne me viendrait pas à l'esprit, après avoir allumé mon cigare, de jeter une allumette par terre. Et dès que je vois un monsieur qui traverse au feu rouge le passage clouté, je suis indigné, absolument scandalisé. Je change complètement de personnage. Je vous assure que c'est exactement vrai. Je suis toujours à la recherche d'un panier où j'étais mes papiers froissés, alors qu'à Paris, je fais exactement le contraire. Alors, et cela me procure une très grande satisfaction. Et c'est tout de même une forme de civilisation que de prouver autour de soi une structure ordonnée qui néanmoins n'intervient en rien avec votre liberté.
Thank you.
Si vous aimez cette musique, alors retenez que c'est le quatuor pour piano, violon, alto et violoncelle de Brahms, le deuxième, et qu'on écoutait ici le premier mouvement, Angelisch, Cossé et les frères Capuçon. Il est 10h, les infos sur RTS Espace 2.